À l'occasion de l'exposition Wolfgang Störchle au Crédac et de la parution de la première monographie consacrée à l'artiste décédé, Wolfgang Störchle, Success in Failure, nous recevons Alice Dussapin, commissaire de l'exposition et éditrice de la monographie. Alice Dussapin est éditrice et chercheuse indépendante basée à Lisbonne. Elle est cofondatrice et codirectrice de la revue Octopus Notes et de la maison d'édition Daisy. Depuis 2017, elle mène des recherches sur le physicien, éditeur et poète Ben Porter, ainsi que sur le vidéaste et performeur Wolfgang Störchle. Il est question ici de présenter les différentes étapes dans sa recherche sur 5 ans ayant mené à la publication. Des différents entretiens menés auprès des anciens étudiants de Wolfgang Störchle à CalArts, de la découverte d'archives inexplorées de l'artiste, et de retrouver les œuvres laissées par ce dernier, parmi lesquelles des fake news créées par Störchle, afin de se construire un personnage artistique dont la figure mythique a marqué les esprits et survit encore.
Merci d'être là. J'imagine que vous avez eu le temps un peu de faire le tour des expositions, du coup en particulier de celle d'Alice qu'elle organise sur le travail de Wolfgang Störchle. Alors je sais qu'il y a des gens qui te connaissent très bien, mais pour dire quand même quelques mots sur ce que tu fais, donc tu es éditrice, tu as aussi cofondé un espace d'exposition, un personne à Lisbonne, tu es cofondatrice et éditrice du coup de Octopus Notes et aussi de la maison d'édition Daisy, qui est une maison indépendante, qui fait pas mal de travail. Et tu as travaillé du coup sur Wolfgang Störchle sur 5 ans et on voulait organiser cette rencontre autour donc de la sortie de cette monographie qui est la toute première consacrée à celle du travail de Wolfgang Störchle et qui est une figure, si vous ne la connaissez pas, un peu mythique, enfin ton travail est vraiment entouré de mythes, un peu de rumeurs et sur lequel tu t'es focalisé en faisant vraiment des recherches à Los Angeles quoi. Donc je te laisse la parole pour parler un petit peu de son travail de manière générale. On verra quelques vidéos aussi.
Alors, j'ai organisé j'ai fait un petit PDF pour que ce soit un peu parlant, qui accompagne au fond la structure du livre. Pour commencer un peu au début, j'ai découvert le travail de Wolfgang Störchle par l'intermédiaire d'une toute petite publication qui a été, c'était un petit livret qui avait été publié au magasin de Grenoble, au magasin à Grenoble en 1996. Et c'était une exposition qu'avait curaté Paul McCarthy, qui était dédiée à trois artistes européens qui avaient marqué de façon significative la côte ouest dans les années 70 et qui étaient soit disparus trop tôt ou dans des circonstances particulières. Et c'était une trilogie sur Guy de Cointet, Bastien Ader et Wolfgang Störchle. Et Guy de Cointet et Bastien Ader sont aussi des artistes aujourd'hui où il y a eu un travail assez important qui a été fourni en termes de réception. Et Wolfgang Störchle, c'était assez... ça restait très énigmatique. Et surtout, le peu de choses qui étaient dites sur lui restait aussi énigmatique. Il est mort en 1976, donc il est né en 1944 et il est mort en 1976. Le projet devait être assez simple, c'est qu'en 2009, le Getty Research Institute a acheté tous les fonds à la seconde femme de Wolfgang Störchle, qui s'appelle Carol Lingam. Et en fait, voilà, c'était très localisé au Getty, donc il fallait juste aller au Getty. Le projet était assez simple. C'est Christophe David Théry, qui est l'éditeur avec qui je travaillais à l'époque, qui m'a dit « Vas-y, regarde les fonds, et puis on rentre, et puis on essaie de faire un petit projet en invitant plusieurs auteurs, peut-être spécialisés aussi de la côte ouest américaine de cette période-là ». Et en fait, en y allant, c'était beaucoup plus important que prévu. Et puis, j'ai rencontré sa seconde femme, Carol Lingam, qui m'a dit qu'il était aussi très important de rencontrer Karen Wiederkatsch, qui est la première femme qui vit à Oklahoma City. Son frère, Peter Störchle, qui vivait en Floride, tous ses étudiants. Donc, c'est devenu une espèce de constellation comme ça, assez importante. Il a fallu faire beaucoup de voyages de recherche pour restructurer son histoire. Donc, quelle est son histoire? Parce que ça reste encore un peu énigmatique. Dans le livre est constitué chronologiquement par des périodes très importantes dans sa vie, liées plutôt à des territoires. Donc, Toronto-Los Angeles, c'est le premier chapitre du livre. Donc, Wolfgang, il est allemand. Il est né à Baden-Baden. En 56, il migre avec sa famille et ses 7 frères et sœurs à Toronto, au Canada. Et il va rester quelques années là-bas. En 62, il décide avec son frère de déménager et d'aller à Los Angeles. Et pour le faire, il décide de traverser les États-Unis à cheval. Donc ça va mettre une année. Ils arrivent le 23 décembre 1962 à cheval. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Le livre s'ouvre sur ça parce que il va revenir sur son, sur cet épisode de sa vie. À l'époque, il avait 17 ans, tout juste 17 ans, donc il n'était pas encore étudiant, ni n'avait au fond l'idée encore de devenir artiste, si c'est une idée qui se formule comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de tous les interviews et la reconstruction de son histoire, il va beaucoup revenir sur cet événement en disant qu'il s'agissait là de sa première performance. Donc le livre s'ouvre au fond sur sa première pièce. Norman, Oklahoma, c'est la période où il va étudier la peinture et la sculpture à Oklahoma City, qui est en fait cette ville qu'il avait traversée lors de sa traversée à cheval, et il y reviendra. Donc c'est une période de 3 ans. Ensuite, il y a Santa Barbara, qui a ses 2 années de master, où il se tourne plus vers les événements et la performance et la sculpture. Et après, il devient premier professeur de vidéo à CalArts, invité par Alan Capro. Il va y rester juste 2 ans et il quitte Los Angeles pour New York. Et après, c'est une période assez complexe. Si j'ai le temps, j'y reviendrai dessus, mais où il va un peu beaucoup voyager, mettre de côté sa pratique. Il avait s'installer au Mexique de façon très rudimentaire avec une tente, et il va beaucoup écrire et dans une période très voilà, d'introspection très très particulière, et aussi, je pense, une période de dépression très forte. Et il va revenir à Los Angeles en 75, où il fait sa dernière performance, qui a été appelée The Last Performance pour le fait que ce soit la dernière. Et il meurt dans un accident de voiture. Donc le livre est construit chronologiquement et c'est ponctué d'interviews. Donc Daniel Lenn, c'était un compositeur, c'est toujours en vie un compositeur de musique expérimentale qu'il rencontre à Santa Barbara. David Salley, Matt Mullican et Paul McCarthy, c'était ses étudiants en fait à CalArts. Et Helen Winner, qui est à l'époque dirigeait un espace qui s'appelait le Pomona College, où il a fait une grande exposition, qui est la directrice de Metro Picture aussi, et qui le connaissait beaucoup. Ça, c'est vraiment un petit point sur le côté, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expositions qui ont été organisées dans la construction de la recherche. Ça, c'est la première qui a été faite à mon retour d'Oklahoma City. On avait retrouvé des vidéos. Donc, on a organisé un groupe show avec Jonathan Binet, et John Divola et Wolfgang Storchle. Ça, c'est la première exposition que j'ai organisée à Los Angeles, qui a été un moment très important dans la recherche, parce que c'était le moyen aussi pour moi et pour toutes les personnes que j'avais rencontrées déjà de se réunir à Los Angeles, de rassembler pour une première fois plein de pièces qui avaient été jamais montrées auparavant. Donc, les vidéos, bien évidemment, mais aussi beaucoup de peintures, j'en ai mis quelques-unes après. Notamment, les 2 mattress paintings, voilà, qui sont des peintures de sa période de Santa Barbara. Ça, c'est une exposition à Rome que j'ai fait l'année dernière. Puis, il y en a eu une autre aussi à la Galerie Air de Paris. Il y en a eu quand même déjà 5. Mais c'était des étapes très importantes dans l'écriture du livre, parce qu'à chaque fois, soit une œuvre était retrouvée, soit... Donc ça, c'est j'ai mis des petites photos un peu qui sont pas dans le livre. C'est Peter Storchle, donc que je rencontre à Berlin une première fois en 2017, puis à Los Angeles. Ça va être un moment très important parce que il va me donner un certain nombre de documents qui sont reproduits dans le livre, donc essentiellement des photographies de leur traversée. Donc dans le livre, ça a été un peu présenté état par état. C'était un peu des inédits incroyables de retomber sur ça. Ça, c'est Karen Wiedercouch, qui est malheureusement décédée l'année dernière, mais je suis allée la voir 2 fois à Norman, donc c'est une petite ville à côté de Oklahoma City. Ça va être un moment très important dans la recherche, parce que il y a beaucoup, beaucoup de documents, notamment de la période de Santa Barbara et de Oklahoma, qui ne sont pas au Getty Research Institute, qu'elle a encore gardé. Là, c'est une photo de son garage, mais Karen avait presque une... Ouais, c'était une maladie, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais elle gardait tout, 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 tout. Même les bouteilles d'eau. Donc, en fait, c'était... J'y suis allée 2 fois pour essayer de trouver une œuvre qui est chez elle, mais qu'on n'a jamais réussi à trouver. Et ça, c'était un... On a constitué, la 2e fois où je suis allée, des archives très précises qui ont été données à Santa Barbara. Donc ça, c'était une période aussi très importante. Ça, c'est une photo ce qu'on a retrouvé dans justement toutes ces affaires, une boîte, c'était un peu comme dans un film, une boîte avec plusieurs Super 8 qu'on a fait numériser, qui ont été aussi très importants, j'en montrerai deux. Ça, c'est Daniel Lenz, qui est une personne qui était très très proche de Wolfgang Storchle, et ils vont travailler beaucoup ensemble. Daniel Lenz va fonder un groupe qui s'appelle The California Time Machine, et Wolfgang va en faire partie. En haut, c'est Daniel Lenz, que j'avais rencontré à Los Angeles, qui va être aussi le premier entretien que je fais avec un artiste qui a été son élève, et donc de là va naître une multitude de rencontres, notamment avec aussi des compositeurs, parce que quand il était professeur à CalArts, il avait ce cours hybride qui était assez intéressant, c'était avec le compositeur Harold Budd, et en fait ils ont échangé leurs pratiques. Harold Budd enseignait la performance et Wolfgang Storchle la composition musicale, et en fait dans ce cours-là il va avoir donc beaucoup de compositeurs qui ont suivi l'enseignement de Wolfgang, qui ne faisait pas de la musique au sens classique du terme. Donc j'ai aussi fait beaucoup d'entretiens avec des compositeurs de la côte ouest. Ça, c'est le film donc qu'on a découvert pour la première fois, parce qu'il n'avait jamais été visionné par Karen. Alors je sais pas, je vais vous le montrer, parce que c'était un moment quand je le présente dans les expositions, c'est vraiment un document, parce qu'en fait le film a été une captation de son arrivée à cheval avec son frère le 23 décembre 1962. Ce qui était intéressant, c'était que ça donnait une image pour la première fois de cette histoire, parce que moi, à chaque fois que j'ai rencontré des artistes qui l'ont connu, c'était toujours, ah oui, Wolfgang, sa première performance, la traversée des États-Unis, mais il n'y avait pas vraiment de visuel, c'était vraiment comme ça un fantasme, quoi. Donc là, c'était une petite charrette où il y a marqué From Toronto to Los Angeles. Ça, c'est Peter Storchle. C'est un tout petit loop, ça fait une minute vingt. Ça, c'est Wolfgang. Et après, ils sont avec des amis et ils boivent des verres pour célébrer cette traversée. C'est anecdotique, mais Peter a refait le voyage il y a 3 ans en voiture. Quand je l'ai rencontré, il venait de terminer. Donc voilà, ils boivent du champagne. Il y a la femme de Peter qui est là et des amis. En fait, ils y avaient donné rendez-vous à beaucoup de gens en juin, puis ils sont arrivés en décembre. Donc il y avait beaucoup de gens qui les attendaient, quoi. Déjà un travail sur le comment se faire attendre. Ça c'est j'espère que je serai assez claire, parce que c'est un peu quand j'ai décidé d'inclure cette traversée dans le livre, j'ai fait une recherche par étape de tous les états qu'ils ont traversés pour voir s'il y avait eu des informations sur ces deux Allemands qui traversaient les États-Unis à cheval. Et il y en a eu, il y en avait je crois, une vingtaine, quoi, par état. Donc j'en ai mis plusieurs dans le livre. Et c'est important parce que je pense que ce serait mieux si cette explication arrive plus tard, mais le journal, l'article de journal est quelque chose de finalement très important dans son travail, parce que il y aura beaucoup de presse pour différentes raisons, et il y aura aussi de la fausse presse. Ça arrivera après, mais. Donc c'est pour ça que ça a été très important. Je vais revenir après, sinon vous comprendrez. Mais donc suite à la traversée, il va rester 2 ans à Los Angeles. Ça, c'est des choses qui sont pas dans le livre parce que c'est assez anecdotique. Mais il était valet dans un parking. Donc c'était des choses plutôt là de l'ordre du fétichisme, parce que je les ai pas mis, mais voilà, il commençait à dessiner, c'était un peu l'idée de montrer. Et il travaille à Teen Screen, qui est un magazine comme ça, un peu pour les adolescents, enfin les jeunes, sur les stars du moment, les informations autour de musiciens connus de l'époque. Et c'était important et intéressant de tomber sur ça, parce que c'est là qu'il va finalement apprendre beaucoup de choses sur la façon de construire un récit et une façon de se présenter, de qu'est-ce qui doit être mis en avant, qu'est-ce qui doit être de l'ordre du sous-titre. Et ça prend beaucoup de sens quand on voit des pièces plus tard. Mais ça, c'est Oklahoma City. Donc, il arrive pour étudier à Oklahoma City la peinture. Et il y a un article dans le journal officiel qui dit il a choisi Oklahoma City University, donc OU, c'est Oklahoma University, après une traversée à cheval. Et en fait, il y aura toujours, avant même de devenir étudiant, il fait la couverture d'un journal important de Oklahoma. Et je passe directement à son exposition au fond après ces 3 années, donc de licence, comme on dirait en France. Et il fait son exposition, voilà, qui était vraiment plutôt un accrochage pour montrer un peu l'ampleur du travail de cette première partie. Et il le fait dans le musée national d'Oklahoma. Et pareil, on retrouve encore beaucoup d'articles sur lui. Là, j'en ai mis que deux, mais il y en a des dizaines. Ça, c'est des pièces. C'était important parce que la zip cast, donc la jambe à gauche, c'était cette pièce. C'était la raison pour laquelle, au début, j'allais à Oklahoma City, puisque cette pièce était à Oklahoma City, et on ne l'a jamais retrouvée, mais elle est dans la maison de Karen. Erection à droite, donc c'est des pièces en bronze. Il en a fait, il a fait des nombrils. Il a aussi fait un cast des parties génitales d'une femme. Before We Can Pray, Any Secrets From Me, c'était le nom de l'exposition à Los Angeles. J'expliquerai rapidement pourquoi après. Et des zips comme ça. Ça, c'est la période à Santa Barbara, donc à Oklahoma. Il rencontre Karen Kautwieder et il se marie en 1965. Donc, ils vont ensemble à Santa Barbara. À Santa Barbara, il commence ces premières pièces que j'ai retrouvées, qui étaient à Oklahoma aussi. Il y a aussi une note dans le livre qui explique toute la question des titres, parce que c'était assez compliqué de titrer toutes ces œuvres-là quand les titres n'avaient pas été localisés. J'ai marqué Untitled et une description du titre. Donc là, Untitled, Banana, Entire Track. Donc il y aura beaucoup comme ça de pièces avec des faux accidents. Il y a aussi cette peinture qui a été retrouvée à Santa Barbara chez Carol Lingham, des matelas. Alors ça aussi, il y a eu beaucoup d'écrits autour de cette pièce, mais en fait, c'est une pièce peinte à l'acrylique avec toujours cette idée, un tout petit twist sur l'impression du rendu et ce que c'est véritablement. Et donc il raconte qu'il voulait qu'on ait l'impression que ça soit un spray paint en fait, et c'est de l'acrylique. Il a aussi beaucoup écrit sur il y a des textes dans le livre que j'ai mis sur il raconte comme ça qu'en ce moment il peint des matelas et qu'il est intéressé par la tension et la sexualité qui émanent de ces produits manufacturés. C'est important pour la suite. Ça, c'est aussi un poster que j'ai retrouvé à Oklahoma City. Donc, c'est Wolfgang Storchle qui rejoue le déjeuner sur l'herbe, tout simplement, avec beaucoup de... Comment on dit qu'on est humble. Mais ça va être quelque chose qui va être très important et très tôt, ce jeu un peu ironique sur le cliché de l'artiste et puis en même temps une aisance à se mettre en face des maîtres du passé sans aucun problème, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Et pour faire simple, quand je suis allée au Getty en 2017, il y avait beaucoup de dossiers qui me posaient un peu problème pour des raisons très simples. C'est que donc la Butler Gallery existe. C'est une galerie même très importante, fin des années 60. Donc là, c'est des articles de journaux sur cette exposition à la Butler Gallery. Donc je les avais catalogués comme ça dans l'exposition de la Butler Gallery. Et puis quand je regardais les archives de la Butler Gallery, il n'y avait rien sur Wolfgang Storchle. Present Performance with the Cast of 16, c'est un interview avec Hélène Segalov, donc qui est présentée comme une journaliste. Hélène Segalov, c'est une artiste vidéaste aussi de californienne. Et puis il y a un ton comme ça, très désinvolte. Elle lui dit « Ah, donc on est dans ton exposition qui est dédié au moulage de 16 de tes anciennes petites copines. Est-ce que tu peux nous en parler ?» Une fois que j'ai déconstruit toutes ces informations, en fait, il n'y en a eu qu'un de cast. C'était Bobby, c'était une amie de Karen et de Wolfgang. L'exposition n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu... Donc ça, c'est venu après. Et le ton aussi, c'est écrit, c'est très, très ironique. Il y a aussi cette photo de Robert Morris, en fait, qui sera la couverture. Et Wolfgang Storchle qui font un bras de fer. Et l'article parle justement de cette possibilité pour les visiteurs d'aller faire un bras de fer avec l'artiste. Et puis tout simplement, il met Robert Morris en face de lui, qui est un des artistes extrêmement majeurs de l'époque. Donc on retrouve encore un peu une filiation comme ça sur Wolfgang qui se place. Ça, c'est quand j'arrive à Oklahoma City et puis... Karen Wiederkatsch sort d'un rouleau tous les articles qui posaient problème, qui étaient tous ensemble. Et donc elle me dit « Ah, c'était des fake news, c'est lui qui les a écrits pour créer de la confusion. » sur son propre travail. Et ça a marché parce qu'en plus, au Getty Research Institute, il y a un catalogue qui est sorti qui s'appelle Video Artist, California Artist, qui était une exposition très, très importante au Getty, dédiée à la vidéo sur des artistes californiens, enfin des artistes californiens qui pratiquaient la vidéo. Et il y a un article sur Wolfgang qui reprend des fausses informations, puisqu'évidemment, ces articles sont dans les archives qui accompagnent la réception d'un travail. Donc, ce qui est assez beau, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est pour ça que la jaquette du livre, en fait, c'est un fac-similé de cette fake news qui a été mise là. Le livre a été... Ça, c'est aussi la période de Santa Barbara. Donc, en 70, c'est sa dernière année. C'est un événement qui s'appelle Exchange of Clothes. Tout simplement, lui qui rejoint un autre artiste qui s'appelle Wayne Buckley. Et ils échangent entièrement leurs vêtements. Et ils repartent. Je vais un peu vite parce que il y a plein de choses aussi à dire sur les œuvres, mais en tout cas cette performance. Il va aussi expérimenter beaucoup de choses avec le plâtre, donc outdoor plaster drops avec des étudiants, enfin ses amis. C'était des planches en plâtre que lui faisait et il va faire une série comme ça de d'événements où il demandait à des gens juste de les lâcher dans des endroits, soit dans des escaliers ou sur des structures de bois avec des formes très différentes. Ça, c'est une photo de Wolfgang Storchow et Daniel Lenz. En fait, il va performer beaucoup pour Daniel Lenz qui, à l'époque, faisait des pièces, notamment avec l'usage de verres de vin. Plus on les buvait, plus le son changeait avec des... C'est très, très élaboré. Il y a pas mal de choses en ligne. Je voulais au début vous faire écouter ça, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Ça, c'est une carte postale qui a été produite dans le cadre de son exposition, donc son Master Show. Donc c'est le premier, celui-là c'est un photomontage. C'est lui et Ronald Reagan, qui à l'époque était le gouverneur de la Californie. Et ça, c'est une capture d'écran de la vidéo que je vais retrouver donc chez Karen. Je vous la montre parce qu'elle est très parlante sur plein d'aspects du travail de Wolfgang. Donc en fait, c'est une série d'actions faites dans un laps de temps très précis où lui, ça c'est Wolfgang, ou d'autres viennent par l'usage de leur corps venir briser des structures en plâtre. J'ai beaucoup regardé cette vidéo et puis beaucoup fait d'interviews avec des artistes qui étaient là aussi. La façon dont ça a été un peu présenté, en tout cas dans le livre, il y avait cette tension. Il joue un peu au cliché de l'artiste avec les Ray-Ban, très sérieux et en même temps toujours un peu comme ça, exacerber cette attitude un peu avec un protocole en même temps toujours extrêmement serré, très sérieux, mais une attitude un peu désinvolte comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, on voit tout un crew en train de filmer aussi. Donc il y a un jeu comme ça de mise en abîme. En fait, ce qui est incroyable et que j'ai appris aussi quelques temps après, c'est que je me demandais qui étaient tous ces gens qui filmaient son diplôme. Donc le monsieur qui est là, c'est un présentateur de télévision qui est venu filmer le Master Show de Wolfgang. Donc encore une fois, une façon comme ça très habile d'attirer au fond une attention. Et un peu hasardeuse parce que c'était en fait les news classiques du 20h, on dirait-on. Et c'était les deux dernières minutes qui étaient toujours dédiées à soit rencontrer un agriculteur ou un informaticien ou enfin quelqu'un un peu. Enfin, les sujets étaient très différents. Et là, ça a été sur le Master Show de Wolfgang. C'est une information qui a été difficile à vérifier, bien évidemment. Mais il semblerait que Alan Kaprow ait assisté à cette performance et que c'est suite à cela, donc là où ça n'a pas été très clair dans la recherche pour moi, a totalement élucidé, c'est est-ce qu'il l'a vu ou est-ce qu'il a entendu et puis il aurait rencontré, ça c'est certain, Wolfgang à Santa Barbara. À l'époque, Alan Kaprow était en train de constituer l'équipe de CalArts, qui est donc cette nouvelle école qui ouvre à Los Angeles. Et donc, il l'invite à devenir premier professeur. Il va devenir premier professeur de vidéo et de performance à CalArts en 70. Donc, il est diplômé en juillet et en septembre, il devient professeur. CalArts, c'était une école aussi très particulière qui, à l'époque, aussi recherchait aussi cette façon un peu, dira-t-on, pas très classique d'enseigner. Et Wolfgang, il aura un cours comme ça dans les sous-titres qui s'appellera « To teach something you don't know ». Donc, C'est pour ça qu'il peut devenir finalement premier professeur de vidéo sans avoir fait de vidéo. Et cette façon, au fond, d'opérer va être très, très productive et très dynamique à plein d'égards pour les artistes qui étaient là. Donc il aura cette toute petite classe, il aura trois cours, mais Video Works. Donc il arrive à CalArts et CalArts venait justement d'acheter un matériel, beaucoup de caméras. Donc c'était ce qu'on appelait le porte-à-pack, qui était une caméra assez légère et qui était reliée à un moniteur et qui pouvait être au fond manipulée de façon plus simple qu'auparavant. Donc Wolfgang n'est pas l'initiateur de cela. Il y aura Bruce Nauman, Vito Acconci avant, mais sur au fond d'autres scènes. Mais il va s'emparer tout de suite du porte-pack et travailler beaucoup dans son studio et aussi avec ses étudiants. Il fait une série, il y en a 25 qui ont été répertoriés dans le livre, de la période de CalArts. Une série d'actions très simples, très rudimentaires à l'atelier. C'est toujours une action, un son, des gestes élémentaires, si on peut dire. Ça, par exemple, c'est dirt blowing. Donc, c'est Wolfgang qui souffle sur un bloc de terre. La vidéo s'arrête quand le bloc de terre est totalement disparu. Alors, pour la construction, enfin, dans le livre, c'était un enjeu aussi éditorial de comment faire un livre avec, parce qu'il y a 41 vidéos répertoriées. Comment faire un livre avec beaucoup de vidéos. Donc, il y a une structure comme ça. Il y a toujours, là, c'est une exception, mais il y a deux paragraphes. Le premier est descriptif et le deuxième c'est un commentaire s'il y a un commentaire à ajouter, pas forcément par moi d'ailleurs, mais une citation ou un artiste qui aurait vu cette pièce ou une information supplémentaire. Là, c'est en lien avec une pièce de Robert Morris. Box dropping, elle est très simple, c'est une des plus longues. Donc c'est Wolfgang qui est dans son atelier, qui a mis un micro à l'intérieur d'une boîte et qui pousse la boîte, qui tombe par terre, et la remonte, et la remet debout, et la pousse, et elle retombe. Donc il y a un son comme ça, aussi très impressionnant, très lourd. Et il change de côté une fois, parce qu'en fait, à force de tomber, l'armoire va de droite à gauche, et elle disparaît à gauche. Et ensuite, il sort le micro et il le met à l'extérieur et il fait la même chose dans l'autre sens. Ça, c'est Running with Light, c'est Wolfgang dans son atelier qui court avec une lampe torche. Donc, les mouvements de son bras mettent en lumière ou pas des parties de l'atelier. Tunnel Effect, ça, il en a parlé beaucoup aussi, des jeux avec le moniteur lui-même. Donc, c'est des systèmes techniques de feedback assez classiques, mais il faisait pointer la caméra sur le moniteur, donc ça crée un effet de loop, comme ça, de tunnel, en fait, ce qu'on a appelé le tunnel effect. Et pareil, pour revenir un peu sur les mattresses, ou quelque chose qui est sous-tend toujours un peu dans son travail, c'est qu'il va intégrer, à différentes étapes, il va rentrer entre les télés et retirer un t-shirt, une chaussette. Et c'est particulier parce que j'ai essayé pendant des heures avec beaucoup d'artistes d'essayer de comprendre comment il avait réussi à au fond rentrer sans apparaître dans l'autre télé. J'espère que c'est pas trop confus, mais si on a le temps, je pourrais vous en montrer, c'est très court. Ça, Penis with Disney Character, elle aura aussi beaucoup d'écho pour des raisons au fond très anecdotiques, mais c'est donc le pénis de Wolfgang, duquel sort des personnages liés à l'industrie de Disney. C'est pas anodin parce que CalArts était fondé par Walt Disney. Donc c'était au fond quelque chose d'assez clair sur le. C'était cette idée, voilà ce que je fais avec l'argent de CalArts. Il y avait, je trouve, Eric Fischel, il parle de cette pièce assez. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, il dit. Disney money was the money behind CalArts. It was Walt Disney's last wish to start an art school with all the art represented under one roof. He had no idea how much the art world would have changed, become leftist and radical. More importantly, he had no idea how contemporary artists view him and his milk sugar sentimentalism as the source of our problems. Wolfgang's piece directed very sure arrow at that target. Et en fait, ça va être aussi. Encore une fois, moi, quand je commence les interviews, il y a toujours la traversée des États-Unis à cheval, Penis with Disney Character. Ça sera un peu les deux pièces qui reviennent souvent. Ça, c'est une exposition, enfin pas une exposition, une performance qu'il fait à New York, invité par Willoughby Sharp, et qui était le Pier 18. Elle s'appelle Spiel, donc le geste aussi est très simple. C'est, il a quelqu'un avec lui, un assistant qui le charge de morceaux de planches de bois et il essaie de résister au fond au poids et il tombe. Ça, c'est aussi un événement important dans la réception de son travail. Il est invité par Helen Winner à participer à cette série de performances sur trois lundis. Donc, il y aura Hiro Kozaka et Chris Burden et Wolfgang. Ça aussi, ça a alimenté beaucoup de choses sur sa réception parce qu'en fait, quand moi je rencontre Helen Winner, donc qui est à New York, il y avait une rumeur et même aussi Matt Mullican l'avait confirmé. Il disait ah oui, à cause de Wolfgang Storchle, Helen Winner a été littéralement virée, renvoyée de Pomona. Elle a dû partir et quitter la côte ouest. Tout ça quand ça a été un peu déconstruit, c'était pas du tout vraiment ce qui s'est passé. Mais dans cette série de performances, Wolfgang va terminer la série de performances par il va uriner sur un tapis le plus longuement possible, donc en se retenant. Et en fait, j'essaie de. C'est aussi. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je rentre dans ce que je pense vraiment et de présenter en même temps de travail. Mais il y a quelque chose qui est très important dans la réception du travail de Wolfgang et qui a été essentiel pour écrire le livre. En même temps, il y avait toutes ces rumeurs et puis ces histoires rapportées sur les dégâts ou le sensationnel qui émanait du travail de Wolfgang. Et en même temps, toutes les personnes qui ont assisté aux performances racontent que c'était plutôt gênant d'être là et d'assister à ça. Et je pense que c'était très important dans la réception du travail de plutôt voir le pathétique et jouer avec cette notion-là, plutôt que de l'inconfort pour l'audience. Après, ça reste une interprétation de chacun, et puis les artistes ont été pas tous d'accord sur ça, mais en tout cas, il est pas venu uriner pour faire virer la directrice de Pomona. Mais c'est ce qui était finalement ce qui a été retenu. Ça, c'est une vidéo qui est importante parce qu'en fait, c'est de là que je découvre aussi un peu le travail, mais c'est une vidéo qui s'appelle Eat, et c'est un dîner, ça dure une heure, un dîner filmé où chacun des participants devait faire devait participer d'une manière, soit en faisant une lecture ou une pièce. Donc il y a Alan Caprow, c'est par là, parce que j'avais fait un livre avec Christophe David-Terry sur Alan Caprow, Pauline Oliveros, Emmett Williams, Claire Loeb, Daniel Lentz et Helen Winner. Donc après, elle va participer à cette vidéo avec Wolfgang. Hypnosis Peace. Donc ça, ça va donner le titre du livre qui s'appelle Success in Failure. Ça, c'est une de ses premières. C'est la première fois qu'il va performer Attempt Public Erection, qui refera de nombreuses fois aussi à New York, beaucoup, à Boston. Et le protocole est très simple, c'est Wolfgang qui arrive vêtu, qui se dévêtit, qui essaie d'avoir une érection sans se toucher et sans rien d'autre, quoi, avec la simple force de son esprit. Donc c'était assez quelque chose d'être en face de cette pièce et de se dire qu'est-ce qu'il fallait en faire, comment travailler la réception de tout ça. Et en fait, quand je suis tombée sur Hypnosis Pieces, c'est une pièce de, enfin c'est un film. Qui fait à l'atelier, il y en aura beaucoup d'autres, mais Hypnosis Pieces c'était le plus complet, donc où on le voit lui à l'atelier en train, face caméra, en train d'essayer d'avoir une érection. Et cette vidéo elle est particulière parce que dessus il s'enregistre, et donc il y a plusieurs niveaux de temporalité parce que il raconte que cette vidéo il l'a fait en s'entraînant, parce qu'il prépare la performance de Mark Street. Et dessus, il s'enregistre où il raconte comment s'est passée la performance de Marcus Street. Dans le livre, il y a une retranscription entière de ce monologue qu'il fait. Et il raconte qu'il va voir un hypnotiseur pour travailler, pour essayer de contrôler son esprit sur son corps et de voir jusqu'où est-ce que l'esprit peut au fond dépasser ou avec la simple force de son esprit avoir un désir, quoi. Et il raconte, c'est assez drôle en même temps, c'est toujours très sérieux, puis en même temps, il rit beaucoup de lui. Et il raconte que l'hypnotiseur avait pris cela très sérieusement et en même temps, il lui disait que c'était impossible à accomplir. Donc il raconte voilà toutes les séances avec lui. Et puis il dit qu'à Market Street, ça n'a pas marché. Il dit finally, yeah, it didn't work finally. It was a success in failure. Et en fait, ça va être un moment important dans la recherche aussi, une étape importante d'entendre ça de lui, parce que cette idée voilà du succès dans l'échec et de qu'est-ce qui se passe quand on tente quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Et ça va être un moment important aussi dans les conversations que j'entretiens avec beaucoup d'artistes qui désiraient aussi parler de cette pièce-là et qu'elle soit intégrée dans le catalogue. David Salles aussi, il y a beaucoup d'entretiens qui reviennent sur cette performance, parle dans le livre de cette notion du confort dans la vulnérabilité et de que c'était une notion aussi qui travaillait beaucoup dans ses performances. C'est des choses comme ça plutôt à méditer plutôt que là d'en faire un sujet aujourd'hui puisqu'on n'a pas... ça c'est une photo de Wolfgang Storchle, Jack Goldstein qui était l'assistant de Wolfgang à CalArts par ailleurs, c'est pas si anodin comme information, et Alan Ruppersberg. Et là en fait Wolfgang quitte CalArts pour aller s'installer à New York. Il continue à produire une série de vidéos à l'atelier. Il avait acheté aussi un porte-à-pack. Ça, c'est une vidéo que j'ai mise parce qu'elle est dans l'exposition aussi. Il a fait 6 vidéos qui ont été labellisées sous le nom de Food Stuff. Donc, il y a le lunch, il y a le dinner, il y a la pomme. Il y a plusieurs étapes. Et donc, simplement, la vidéo s'arrête quand l'entièreté de l'assiette est digérée. Il refait aussi des tunnel effects. Et en fait, c'est une période très compliquée. Il y a beaucoup de lettres dans le livre aussi de la difficulté pour lui de gagner sa vie, de continuer à être en lien avec son travail de façon lisible. Et ça, c'est la dernière vidéo qu'il fera. C'est ce qui était présenté dans l'exposition au Crédac. Elle était importante aussi de par son statut parce que elle n'est pas filmée, c'est la première fois qu'il ne se filme pas. Donc c'est quelqu'un d'autre, Sue Turning. Et elle a été produite dans le cadre d'un workshop dans le Connecticut. Et c'était des duos qui étaient créés entre des danseurs et des artistes qui utilisaient la vidéo. Donc là, Caroline Pfaff était une danseuse. Et il va utiliser, enfin, il aura accès aussi à un studio avec des caméramans. Et donc là, c'est une vidéo particulière parce que il y a 3 caméras qui filment Sue des pieds à la tête. Voilà, mais en même temps, si vous l'avez vu, je vais me taire. Mais c'est la dernière vidéo qu'il fait. Il vend tout son équipement et il rencontre Carole Lingham qui devient sa deuxième femme. Et il va mettre un peu sa pratique de côté, beaucoup écrire sur ses rêves. Il va prendre aussi beaucoup de drogue. Donc ça, c'est des photos que j'ai retrouvées, que j'ai mises là pour juste donner une image à cette période. Ça, c'est des dessins qui sont au Getty Research Institute, qui va faire dans sa période au Mexique, qui sont des tout petits dessins, voilà, 15-10 cm. Et ça, c'est la dernière performance qu'il fait. Donc en fait, il arrête vraiment toute pratique pendant 2 ans. Et il commence à écrire à quelques artistes avec qui il était en lien en disant qu'il travaillait sur une performance et qu'il sentait qu'il avait envie de la produire et de mener à bout ce travail qu'il était en train de... Voilà, qui était pour l'instant juste dans sa tête. Et il rentre à Santa Fe où il va travailler quelques mois et il va être invité... John Balsari va lui prêter son atelier. C'est là que va avoir lieu cette dernière performance, qui va être aussi après le Pinus Peace et la traversée des États-Unis, une performance sur laquelle tous les artistes que j'ai rencontrés, voilà, parlaient, fait beaucoup d'effet pour des raisons aussi très rudimentaires, parce qu'elle est assez dérangeante comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que James Willing, donc, qui était aussi un étudiant de Wolfgang et qui deviendra très proche de Wolfgang dans une certaine mesure, va écrire un article, un compte-rendu de la performance le lendemain. Ça, je découvre 3 ans après. Donc pendant 3 ans, ce qui était intéressant, c'est tous les entretiens que j'ai faits, il y a eu plein d'interprétations, enfin au-delà des interprétations, mais plein d'extrapolations sur ce qui s'était passé dans cette performance. Alors par où commencer pour en parler ? Je vais en parler très rapidement, mais... elle durera assez longtemps, hein, ça dure une trentaine de minutes. Wolfgang va arriver encore une fois vêtu et il lui donnera un long monologue qu'il avait, il semblerait, écrit avant, très précis sur la question des limites dans l'art et la vie et jusqu'à quel point on peut pousser des limites qu'on s'est construises pour des raisons voulues ou non, bien évidemment. Voilà, avec tout ce que ça peut sous-entendre. Et dépasser ces limites, ces boundaries, comme il en parle, dans un cadre artistique. Il raconte voilà tout ça. Il semblerait très calmement et un texte très écrit. Et il demandera à quelqu'un dans l'audience, un homme, de venir pour qu'il fasse une fellation. Apparemment, c'était extrêmement lourd d'être là. Il semblerait que toutes les personnes racontaient que plus personne ne parlait dans la salle. Il y avait une ambiance très oppressante comme ça. Beaucoup de gens parleront aussi du fait que physiquement, il avait changé, qu'il y avait quelque chose de très, très, très particulier chez lui, que beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu. C'est des détails, mais ça construit aussi plein de choses sur la façon dont le geste a été amené. Et quelqu'un, un homme est venu. Il a essayé, je crois. Enfin, ce que disait James Willing, il raconte. C'est assez beau comme c'est écrit parce qu'il dit, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. S'il s'est d'ailleurs passé quelque chose. Et après, ils se sont enlacés et ça s'est terminé. Donc, le livre se termine sur cette pièce. Il y a beaucoup d'interviews qui parlent de cette pièce, notamment l'interview que je fais avec Paul McCarthy. Il parle presque essentiellement de cette pièce-là. J'ai mis un tout petit passage. Donc, ça, c'est la review de James Willing, justement, qu'il écrit en octobre 1975, qu'il avait écrit pour Art Week, qui ne sera pas publié, qui retrouve quelques années après le début de la recherche. Il dit, voilà, je vais lire avec mon accent français-anglais. « If the performance is about anything, it is about resistance. Stoschle started that his art takes the low road, and in her culture, the low road, the road of the unconscious, is given the strongest resistance of all. To express this in public, to give momentary light and visibility to these lunar forces, as Stoschle did, took an extreme effort. » Et ça, c'est le livre se termine sur cette quote de Paul McCarthy, parce qu'on parlait beaucoup de cette idée du confort dans la vulnérabilité et de se mettre dans une situation extrêmement inconfortable et qu'est-ce qui se passait quand ça a été mis en jeu, qu'est-ce que cela produisait chez le spectateur, chez l'artiste lui-même. Je trouvais, il dit « There is something, especially at the moment in time, the idea of moving away from the art world. Artists were doing it. Not for monetary reasons, I think for other reasons. The process of making art had led them to the process of affecting their life. I think Wolfgang was attempting to affect his being, and I think that is what that last piece is about. He is affecting who he is, and is it confrontation? I think that is just a side effect to the real thing, which is to affect his own being. And I think that's where Wolfgang was going. At that point, did he need the art world? What could the art world would give him? » Donc cette idée, voilà, d'affecter son propre être publiquement. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu cette question de the last performance. Est-ce qu'au fond, c'était la dernière? C'était une question assez naïve que j'essaie de poser. C'est pour ça que Paul McCarthy dit au fond, après ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, quoi. Et quand j'ai rencontré Matt Mullican pour la première fois, je parle de la dernière performance et il me dit « Ah non, mais c'était pas la dernière performance. La dernière performance, c'est son suicide en voiture, et parce qu'il meurt dans un accident de voiture. » Ce qui est intéressant, c'est que donc moi, j'ai rencontré Carol Lingham, qui est sa seconde femme, qui était dans la voiture. Bien évidemment, ce n'était pas un suicide, mais c'était ça qui entourait Wolfgang en un sens. Je pense que ouais, c'était pas anodin. Le livre, ça c'est une petite chose, mais donc il y a cette jaquette, mais derrière j'ai mis cette citation de Samuel Ehrenberg que j'aime bien, qui dit « When I think about Wolf's life and work, I like to imagine that the automobile accident in New Mexico was a stage performance piece and that he's still alive on a ranch somewhere in Wyoming riding horses. » Donc, ouais, ça c'était, et c'est une photo de Wolfgang 2 ans avant sa mort. Ça, c'est une petite photo de dessin. Donc, je sais pas, je voulais dire plein de choses et puis je suis partie un peu dans le commentaire de ce PDF. Mais, ouais, c'était une longue recherche et une longue période aussi pour arriver à ce livre, à la constitution de ce livre qui a été fait avec Colin Sunier et Charles Mazet, donc qui sont les graphistes, qui ont beaucoup contribué aussi à la façon dont le livre a été pensé et organisé. Qui est, peut-être je terminerai sur ça, mais le livre a été construit comme un source book. C'était vraiment ce que j'avais en tête en le construisant avec eux. Donc il y a toute une documentation horizontale. Voilà, il y a beaucoup de lettres, beaucoup de posters autour de nombreuses de ces pièces, donc entre 62 et 76. Et voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Mais si vous avez des questions, je serais ravie d'en parler avec vous. Et ça, c'est Daisy, c'est le site de la maison d'édition qui a été créée cette année avec Baptiste Pinto, qui est là. Donc je voulais juste vous mettre la photo du site.
Et le point de départ, ça a toujours été de faire une publication.
Oui. Ah oui, voilà. Non, ça, c'est très important parce que, au fond, après, c'est des détails un peu sur l'idée qu'on se fait de soi, mais je dirais pas que je suis commissaire d'exposition, pas du tout. C'était un hasard, en fait. Voilà, quand Lisa Overdwin, donc, qui dirige cette galerie à Los Angeles, m'a proposé, puisque je faisais ma recherche à Los Angeles, de peut-être faire un point. Ça s'est fait comme ça, mais les expositions ne devaient pas du tout avoir lieu. Au contraire, c'était toujours dans l'idée d'amasser des informations, de pouvoir aussi, presque, il y avait des intérêts dans l'organisation du travail. C'est-à-dire que faire une exposition pour moi à Los Angeles, c'était passer plus de temps en Getty, demander à des gens qui habitaient dans le coin de venir. Donc, ça a été fait un peu comme ça. De façon très rudimentaire, mais et après voilà, il y a eu 5 expositions, mais c'était pas du tout ça. C'était vraiment le livre, et ça devait être très rapide. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'aller à Los Angeles, de ramasser toutes les informations et de constituer même une équipe avec des auteurs spécialisés et tout ça. J'avais pas du tout pour idée de pouvoir écrire sur ça. C'est devenu j'avais tellement fait d'entretiens que c'était un peu bon, va falloir y aller. Mais ça, c'est aussi un préambule dans le livre. Le livre a été construit vraiment d'un point de vue, avec une mise à distance avec le travail. Et l'idée, c'est que si d'autres, des historiens, pour de vrai, des vrais historiens, prennent le travail pour le recontextualiser différemment, c'est une deuxième étape, quoi. C'est pour ça que je parle beaucoup de sourcebook.